le zoom de l'info. Interview, décryptage de l'actualité des territoires.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce zoom de l'info spécial territoire. Comme d'habitude, vous le savez, chaque semaine, on met l'accent sur une initiative, une démarche ou une info particulière. C'est bien l'objet du zoom de l'info. On est ensemble pour une petite quinzaine de minutes. Ce que je vous propose, les amis, comme d'habitude, on va parler un peu d'innovation et on va parler d'une... Alors, est-ce qu'on peut dire start-up ou pas start-up ? Mais on va en discuter. En tout cas, une initiative extrêmement intéressante qui va nous être présentée sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Cyril de Souza Cardozo. Salut Cyril.
Bonjour.
Comment ça va ?
Bah écoutez, très bien, très heureux d'être là. Merci pour l'invitation.
Alors, comment on peut dire ? La petite Marianne, le petit Martin ?
Tout à fait.
Les petits bots, les petits bots.
Ce sont en effet les noms de nos deux produits. On a deux produits au sein de la société Les Petits Bots. Ce sont spécialement des chatbots à destination des collectivités territoriales qui ont deux fonctions séparées. Le petit Martin, qui est un chatbot RH, qui vise à automatiser les questions-réponses et les processus en matière de ressources humaines. Et la petite Marianne, qui, elle, est un chatbot citoyen qui vise notamment à améliorer la communication, l'interaction entre les habitants, les citoyens d'un territoire et l'administration publique.
Vous avez fait des études d'ingénieur.
Exactement, j'ai fait des études dans l'univers de la data à l'origine avant
alors,
de devenir...
Alors ça se voit tout de suite parce que c'est carré, clair comme de l'eau de roche, bravo. Alors justement, les petits bots, comme son nom l'indique ou ne l'indique pas, les petits bots, c'est quand même, on va traduire, chatbot,
oui.
C'est une façon de parler... C'est une machine.
C'est exactement cela. C'est en tout cas le terme générique qu'on utilise pour des technologies qui utilisent ce qu'on appelle des moteurs de compréhension du langage naturel.
Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ?
Oui, c'est ce qu'on classe, c'est une dimension de l'intelligence artificielle. Même si la réalité est que le terme intelligence artificielle est un terme un peu galvaudé aujourd'hui qu'on utilise un peu à tout va.
Alors moi, je vais vous faire une confidence. J'ai essayé de parler à un chatbot.
Où ?
Et j'ai flippé, mais flippé à mort, parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir quelqu'un en face de moi.
Oui. Ah, c'est vrai que les...
C'était au MIPIM, il y a 3 ans. J'ai eu une expérience qui avait été présentée par des Allemands. Donc on m'a immergé dans l'espace. J'ai même fait une expérience holographique après. Il y avait des innovations qui étaient présentées. Et j'ai posé quelques questions, un peu néophytes. Alors, ce n'était pas forcément écrit. Et très franchement, j'étais bluffé. C'est incroyable. Et on vous le dit, ça, quand les gens parlent, on a l'impression d'avoir quelqu'un en face de soi.
Oui, alors...
Ça ne rend pas un peu schizophrène, ce genre de choses ?
Bah oui, il y a forcément... Alors... La réalité, c'est que le chatbot a eu surtout mauvaise réputation, parce que comme toute technologie, le patron d'IBM disait que finalement, il fallait 10 ans pour qu'une technologie devienne véritablement une innovation. Et aujourd'hui, on arrive justement au stade de maturité de ces technologies-là, et il y a des prouesses qui sont véritablement réalisées. La capacité aujourd'hui de ces moteurs de compréhension du langage naturel à comprendre les intentions de l'être humain lorsqu'il pose une question sont vraiment très évoluées. Mais
est-ce que la machine, comme une machine learning, se évolue par elle-même ?
Oui, alors c'est du machine learning.
C'est du machine learning qui intègre forcément, et donc elle étend son spectre de langage, en fait, par l'expérience et la répétition.
Tout à fait. Alors nous, on va le faire d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle, nous, de l'apprentissage assisté, puisque en gros, le machine learning s'appuie sur ce qu'on appelle des données étiquetées. Nous, pour que le chatbot puisse évoluer, eh bien, à chaque fois qu'il est confronté à une question non comprise, à une intention sur laquelle il a pu se tromper, eh bien, il va le remonter dans un back-office, et ce sont les administrateurs, les référents du territoire qui vont venir ensuite, eh bien, aider le chatbot à progresser pour comprendre des nouveaux mots, des nouveaux termes, des nouvelles questions, et s'enrichir de nouvelles réponses avec des taux de compréhension qui progressent de manière très importante.
Alors, ce qu'on aurait dû faire, c'est faire une expérience. Mais c'est promis, on le refait hein, la prochaine fois.
Avec grand plaisir.
Hein ? Donc on se met en situation.
Oui.
On met les haut-parleurs, on a la prod qu'il faut et on fait cette expérience. Quand on vous dit, alors je vais pas vous mettre en difficulté dans ces questions-là, mais on doit vous la poser cette question. C'est que c'est peut-être destructeur d'emploi. Alors je sais qu'on vous l'a déjà dit, on vous le fait, mais est-ce que ça détruit des emplois ? Et est-ce que quelque part, je vais même élargir la question, le fait de passer par un robot, ça déshumanise et ça dépersonnalise l'accès. Notamment quand on parle, par exemple, parce qu'on va en parler tout à l'heure, de services publics, par exemple. Mais ça peut être aussi sur d'autres sujets. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Moi, je pense qu'au contraire, et c'est le fruit de notre travail aujourd'hui, c'est qu'on vient réhumaniser le travail. Alors bien sûr, comme Schumpeter le disait, toute innovation produit de la destruction créatrice. On va inévitablement venir prendre un travail qui est aujourd'hui réalisé par des êtres humains. Sauf que ce travail-là, il est à faible valeur ajoutée. Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est véritablement de venir automatiser ces réponses à des questions récurrentes, rébarbatives.
Vous voulez dire qu'en fait, quand les gens appellent, si on devait faire une shortlist, 80%, c'est toujours la même question, en fait. Enfin, j'exagère, mais on peut checker vraiment ce que à une proportion importante, ce que les gens posent comme question, c'est ça ?
On peut automatiser 95%.
Ouais. À quelle heure ça ouvre, à quelle heure ça ferme ?
Exactement.
Voilà, est-ce que je peux prendre un rendez-vous ? Est-ce que je peux, voilà.
Les questions les plus récurrentes, celles qui véritablement viennent des citoyens, une grande partie, bien sûr, se répètent, parce que c'est naturel en tant qu'habitant d'un territoire, eh bien, je vais avoir les mêmes préoccupations,
d'accord,
les mêmes questions.
D'accord.
Et donc notre solution, qui passe aujourd'hui avant tout par l'écrit, il y a des possibilités d'utiliser de l'oral, mais on utilise beaucoup plus le chatbot par l'écrit, eh bien, vient automatiser ça. On prend donc ce travail-là.
Ah oui, on n'a pas, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est pas une voix.
Il existe aujourd'hui des voice bots et des call bots, mais
d'accord,
la réalité, c'est que la plus grande utilisation de ces solutions-là, et dont la nôtre, se fait avant tout par l'écrit. C'est ça le mode principal d'utilisation. Parce que les gens vont avoir soit accès à notre application mobile, soit vont venir se rendre sur le site internet de la ville, de la métropole, de l'intercommunalité, pour poser leurs questions. Donc ce travail-là, il vient être automatisé. Et ce qui libère du temps aux directions des ressources humaines, pour mieux accompagner les collaborateurs en interne, sur des vraies problématiques humaines, parce que quand il y a de la dépression en interne, le chatbot, lui, ne peut pas l'utiliser. De la même manière, dans l'interaction entre les citoyens et l'administration, ça permet de libérer du temps pour les référents et leur permettre de véritablement accompagner les habitants de manière sur mesure.
Alors, c'est bien l'accompagnement dont on parle, parce que ça, c'est un usage important. Est-ce que, encore une fois, ça peut produire le même effet que quand je m'adresse ou quand je vais sur des, vous savez, les numéros, appuyer sur 1, appuyer sur 2, etc. Est-ce que, justement, à l'écrit, on n'a pas toujours ce piège, à la fois répétitif, on a l'impression, effectivement, de ne pas être écouté. Au contraire, non, le délai de réponse est rapide, il est précis. Ce que ne ferait pas quelqu'un qui serait derrière l'écran, par exemple, ou qui répondrait, finalement, la machine le fait.
Exactement, sur les 95% de
donc
questions.
Donc la machine va bien même plus loin que l'interaction humaine.
Elle répond de manière instantanée. Par contre, dans l'interaction, on parle notamment de ces numéros que j'appelle, etc. Ce qui est très important, c'est de ne pas déshumaniser l'interaction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de pouvoir repasser le relais à un être humain lorsque le chatbot
ne comprend pas. Ok, que je comprenne bien. Donc ce système-là est un système additionnel, un service call, par exemple, avec des vrais gens qui peuvent répondre éventuellement.
Oui, d'accord. Sauf que dans les collectivités territoriales, on n'a pas ça.
D'accord. Question, quand la question est complexe et que la machine ne peut pas répondre, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, elle va l'indiquer.
Comment
ça ? L'habitant, elle dit, eh bien, j'ai pas compris votre question, j'ai peut-être pas la réponse. Est-ce que vous souhaitez que je retransfère votre interrogation et notre conversation à un être humain qui va pouvoir venir ensuite vous répondre ? Et là, c'est la personne valide, parce qu'il y a une thématique derrière de gestion des données.
Mais la réponse, elle est comme ça ? Je vais transférer un être humain ? Non.
Oui, tout à fait. Elle indique qu'elle va retransférer l'information. Et donc, ensuite, l'administration, du coup, reçoit véritablement uniquement les questions à haute valeur ajoutée pour pouvoir ensuite reprendre la main.
Est-ce qu'on a une idée du pourcentage que ça représente ?
Aujourd'hui, je dirais que le taux de transfert sur l'ensemble, ils ont autour des 10%.
Vous voulez dire que ça arrive à résoudre 90% des...
On a ces taux-là, en tout cas, aujourd'hui, de taux de compréhension. Alors, dans le taux de compréhension, on a des choses encore à faire progresser, à améliorer.
C'est économiquement, c'est hyper intéressant pour la collectivité.
Ça l'est, forcément. Et si aujourd'hui, on a énormément de signatures...
Il y a des économies d'échelle terribles. Ah oui, ça,
je dirais que c'est un service supplémentaire. Oui,
ouais,
c'est un service supplémentaire. Encore une fois, ça ne conduit
la
pas aujourd'hui...
La notion de coût, elle entre quand même en ligne de jeu, quand même.
Elle entre, inévitablement, surtout dans une période où non seulement il y a un besoin de digitalisation, où il y a une demande de services plus forte, et en même temps où il va y avoir des contraintes sur les collectivités territoriales. Elles vont plutôt être en train de se dire comment maintenir leur niveau et leur qualité de service, sans pour autant renvoyer des personnes, mais comment derrière, cependant, améliorer l'efficience du lien aux habitants.
Alors pourquoi la petite Marianne ?
Alors la petite Marianne, c'est très clair, c'est... une référence à la Marianne. L'objectif, c'était vraiment de renvoyer en écho la valeur de la Marianne, c'est valeur de la République.
L'État,
exactement.
Le service public.
Tout à fait. Etc. C'est vraiment se connecter à ça. C'est dire quel est finalement notre rapport au service public. Ça a été un point important parce que ça fonde les valeurs de notre société. Et d'ailleurs, on est l'une des premières start-up en France à avoir recruté en interne une ingénieure de recherche en éthique appliquée aux nouvelles technologies, en collaboration avec le CNRS. Parce que l'objectif, c'était de penser les valeurs de cette société au regard des valeurs de la République pour véritablement mettre ces outils technologiques au service des citoyens et des politiques publiques et non pas faire comme peut-être trop d'outils le font aujourd'hui, rendre les utilisateurs produits du service.
Alors, chatbot que vous avez donc pour les services publics, qui s'appelle donc la petite Marianne, et une autre application de même nature pour le monde des RH.
Oui.
Qui s'appelle le petit Martin.
Le petit Martin.
Voilà, le petit. Pourquoi Martin ?
Alors, le petit Martin, ça... Bien, alors, j'ai cofondé cette société, notamment...
Non, mais ça aurait pu être Abdelkader...
Exactement, mais alors, c'est très
non,
bien.
Mais, non, mais encore une fois, je ne fais pas de trucs. Je veux dire que voilà, la France est plurielle, la France est multiple.
Exactement, c'est hyper
Martin,
important.
Ça fait très gaulois, quoi. Enfin, c'est très, très, très touché,
oui,
quand
et
même.
On a pris les deux noms les plus communs en France.
Ah, les, un
Petit
nom commun.
Et Martin.
Ça, les, c'est ça.
Et donc, on a pris... Si ça avait été Abdelkader, eh bien, il se serait appelé le petit Abdelkader. Et d'ailleurs, ça nous aurait fait tout à fait plaisir.
Je vous pose cette question parce que souvent, quand on fait des pubs, vous savez, sur une carte de crédit, etc., on prend des noms très, très, très de base. Et je trouverais très intéressant qu'on essaye d'illustrer, vous savez, dans les prénoms, bah, les prénoms qu'on a aujourd'hui dans notre pays, quoi.
Oui, exactement. Alors, je pense que c'est important, cette, en tout cas, de tenir compte de la diversité. D'ailleurs, la diversité est une des valeurs qu'on a inscrites
c'est très
dans
important.
Notre charte éthique. C'est un point important. Ça, par contre, c'est intéressant parce que la question que vous posez ouvre un autre sujet sur l'identité qu'on donne aux chatbots. Aujourd'hui, le travail qu'on a eu de recherche avec le CNRS nous a conduit à considérer qu'il fallait qu'on arrête d'humaniser les chatbots et les robots. Ce qui était le cas au tout début de ce qu'on faisait.
Préciser là.
C'est-à-dire
au contraire, moi, je serais plutôt tendance à dire que c'est plutôt bien, non ?
Eh bien, non. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on va
confondre.
Avoir tendance à donner alors, non seulement à faire croire que peut-être les personnes interagissent avec un être humain, sans qu'en fait, nos tests montrent...
Il y a des boîtes qui s'en privent pas. Hein.
Exactement. Et bien ça, je pense
notamment
que c'est un problème
éthique. Notamment des sites internet auxquels il faut payer des numéros surtaxés.
Exactement. Si et bien je pense que c'est un problème. Alors qu'il faut aujourd'hui, au contraire, assumer que c'est un robot. Et aujourd'hui, tous les chatbots qu'on déploie, puisque la marque Le Petit Martin comme la Petite Marianne, ce sont des marques blanches qui permettent aux organisations ensuite de créer l'identité pour le chatbot. Nous, on les incite à créer des identités véritablement de robots non genrés, parce que ça aussi, c'est un point très important.
Alors attendez, non-genré, ça veut dire quoi ?
Ni homme,
ni femme, ni...
Oui, parce qu'en fait, dans les organisations, tous les chatbots, finalement, avaient tendance à avoir un nom féminin.
Ah oui ?
Ça porte justement sur cette notion de diversité, et ben ça reporte un préjugé, qui est que l'assistante est toujours féminine. Et ben ça, c'est une problématique sur laquelle, qu'on a découvert en cours de route, et sur laquelle
pourquoi
aujourd'hui
y a,
on travaille.
Il y a un mouvement féministe qui a dit non, pourquoi ce serait toujours forcément
absolument
féminin ?
Absolument pas, en tout cas, on n'a pas eu de pression sur le sujet. Okay. Nous, la question qui est la nôtre,
donc
c'est comment on sert au mieux.
Vous avez un chatbot qui est queer, quoi, qui est non défini.
Qui est non défini, parce qu'il n'a pas.
Mode.
Parce
ouais.
Qu'à la fin, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce n'est pas une personne en face. D'ailleurs, c'est même pas un robot. C'est d'ailleurs même pas une intelligence artificielle. C'est juste un système de calcul de données qui est capable, de manière efficace, d'orienter un individu vers la réponse la plus pertinente à son besoin. C'est un système
alors,
efficace.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, ça, à la fois, c'est de la techno, mais en même temps, ça soulève des questions. Alors, questions éthiques. C'est intéressant parce que vous avez tranché le problème en disant, finalement, vous dites, on n'humanise pas. On distingue bien les deux. C'est quand c'est de l'humain, c'est de l'humain. Quand c'est de la machine, c'est de la machine. Clairement, c'est bien compris. Les clients, c'est qui ?
Alors nous, nos
qui
clients...
Qui consomment ce type de service ?
Alors on va avoir... ce sont nous, des organisations publiques principalement.
C'est-à-dire donc, mairie ?
Voilà, mairie, département, région et des intercommunalités, bien sûr. On va avoir au sein de ces organisations soit la direction des ressources humaines, qui vient se doter du Petit Martin pour répondre aux questions des collaborateurs, des agents en interne, ou alors la direction de la communication, la DSI ou...
Donc
la...
il peut y avoir un versus chatbot en interne,
tout à fait.
Pour animer éventuellement des réseaux, des personnes qui sont sur plusieurs sites, mais aussi pour l'externe.
Tout à fait, c'est bien de porter d'ailleurs les deux ensemble, parce qu'on transforme en interne avant de transformer en externe.
Comment vous faites le script au début, pour lancer la machine ?
Alors, il n'y a pas de script au sens où, justement, les chatbots d'aujourd'hui ne sont pas scriptés. C'est-à-dire qu'on va avoir des bases de connaissances publiques où, pour une réponse donnée,
Mais vous injectez d'abord...
On injecte à l'intérieur.
Ouais, vous injectez déjà des...
Les réponses spécifiques.
Ouais, des scénarios, des types de questions,
c'est
etc.
Ça.
Pour entraîner la machine.
C'est ça.
Mais est-ce que la machine, elle évolue ?
Oui, tout le temps, en interaction avec les référents internes.
Donc, plus elle répond, plus elle évolue.
Exactement. Plus on la contacte, plus on la sollicite, plus elle va évoluer. Pourquoi ? Parce qu'elle va avoir des réponses non comprises. Ou alors, les utilisateurs, lorsqu'elle donne une réponse, elle demande à l'utilisateur « Est-ce que ce que j'ai dit est pertinent pour vous ou pas ?» Et l'utilisateur peut faire son retour. Ça remonte dans un back-office. Et les référents vont pouvoir accompagner le chatbot. Parce que le chatbot va leur dire « J'ai posé cette question, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que je dois dire la prochaine fois ?» Ou « J'ai répondu ça. » Et on m'a indiqué que je m'étais trompé ou que c'était pas pertinent. Qu'est-ce que je dois dire ? Et là, le référent, en interaction avec le chatbot, va le faire évoluer.
Combien d'utilisateurs aujourd'hui sur cette application ?
On a plus de 400 000 utilisateurs à travers la France, dont est réparti sur 40 clients.
Comment vous vivez ? Quel est le modèle économique ?
C'est un modèle économique d'abonnement. Alors, il y a des frais de setup, d'installation, mais c'est des frais d'abonnement annuel puisque notre solution évolue en continu. Donc, on est vraiment dans un format SaaS, donc Software as a Service. Le but étant d'assurer à nos clients d'avoir chaque jour accès à la dernière version de notre logiciel, la plus pertinente possible, avec une solution en plus qui évolue chaque jour.
Alors, un abonnement forfaitaire, je suppose, non ?
Oui.
Qui comprend un nombre infini d'utilisateurs ?
Alors, ça va dépendre, forfaitaire, par tranche de collectivité territoriale, c'est-à-dire suivant le nombre d'habitants. D'accord. Sur le territoire.
Je présume qu'avec 400 000 utilisateurs, ça cartonne ?
Alors, on est vraiment dans la phase de croissance aujourd'hui. On sort d'une période qui était particulière, où il y a eu beaucoup de marques d'intérêt pour ce type de solution.
Forcément.
Et la rentrée va être le moment
pour nous. Le confinement a été un accélérateur pour vous ?
Ça a été en tout cas un accélérateur de présentation, de démonstration, de prise en compte. Par contre, ça n'a pas été un accélérateur de signature. D'accord. Maintenant, la rentrée, on le sent bien avec la reprise économique, le besoin aujourd'hui de porter des nouveaux projets. On a eu des nouvelles équipes municipales, mais aussi au départemental et au régional qui se sont installées, qui veulent porter des nouveaux projets. Il y a un besoin de digitalisation et surtout il y a le plan de relance qui vont accompagner finalement.
Alors on a parlé effectivement du modèle économique avec l'abonnement, combien ?
Alors l'abonnement économique, nos prix sont publics mais ça va dépendre véritablement du nombre, donc je n'ai pas la grille en tête, ça va dépendre du nombre d'habitants sur le territoire.
Ça coûte cher ?
Non, ça coûte très peu cher.
Ça coûte très peu
par
cher.
Rapport à service à portée, non, on est sur...
C'est quoi votre objectif ? D'équiper toutes les communes ?
En tout cas,
les EPCI, les collectivités, les conseils régionaux, départementaux.
On veut être les leaders et on est déjà les leaders sur le marché public à date déjà.
Il n'y a pas de concurrence sur le...
On a des concurrents qui venaient de d'autres secteurs. Notre spécificité, c'est d'être expert du secteur public et des D'accord. collectivités territoriales. On veut poursuivre ça. Il y a 1200 EPCI. J'ose espérer D'accord. que d'ici la
Alors
fin de 2022...
Vous avez des partenaires, des associés qui sont dans aussi issus des affaires publiques, hein, me semble-t-il. Je pense que... Vous avez quelqu'un de connu dans votre actionnariat, c'est Jean-Christophe Messina, me semble-t-il.
Tout à fait, Jean-Christophe Messina qui...
Qui vous a apporté l'expertise RH aussi, mais aussi l'expertise de la vision des affaires publiques.
Alors, ça a été même beaucoup plus loin, puisqu'en fait, cette idée-là, on l'a conçue ensemble, sur la base d'une expérience qu'il avait conduite lui. Il a été, Jean-Christophe Messina, DRH de la métropole de Nice. Là-bas, il a créé un numéro unique d'appel puisqu'il s'était aperçu qu'il y avait 12 000 collaborateurs à gérer. Il avait à peu près 250 personnes en interne au sein de la DRH à peu près. Et beaucoup de personnes qui venaient solliciter les membres de la DRH, mais un peu voilà, suivant qui je connaissais, j'allais poser ma question RH.
C'est ça.
Et j'avais pas toujours la bonne réponse.
En fait, il a industrialisé le mode de réponse.
Exactement, mais avec une centrale d'appel.
Voilà.
Et lorsqu'on s'est rencontrés, moi qui venais d'univers data, je lui dis, mais en fait, ce que tu as fait avec une centrale d'appel, on pourrait la généraliser avec un chatbot. Et c'est de là qu'est parti notre travail, notre collaboration. On a commencé en 2016 à travailler sur le sujet.
Et vous avez créé la boîte comme ça ?
Et on a créé la boîte là-dedans. On a d'abord créé ce qu'on appelle un POC, une proof of concept, avant D'accord. d'aller plus loin.
Cette entreprise est possédée par vous et Jean-Christophe ?
Exactement. Et on a deux autres associés. On a notre CTO, Timothée Pierce, et Emilien Nison également.
Est-ce que comme toutes les autres entreprises start-up, vous allez faire ce qu'on appelle une levée de fonds ?
Alors, une levée de fonds, alors...
Est-ce que vous allez vous financer ou pas ?
On n'est pas
ou est-ce que les affaires publiques, peut-être, je ne sais pas moi, BPI, la Caisse des dépôts, pourquoi pas, par exemple, pourraient envisager de soutenir votre activité en entrant dans le capital ? Alors, ça me paraîtrait hyper cohérent.
En tout cas, nous, on est toujours preneurs d'accélération, en tout cas de partenaires. La BPI, d'ailleurs, a financé nos projets d'innovation. Donc, elle est déjà, en tout cas, un partenaire privilégié. Après, je crois qu'il y a eu beaucoup de fantasmes autour du monde des startups, avec l'envie toujours de lever plus d'argent. Nous, ce n'est pas notre état d'esprit. C'est-à-dire que si on lève de l'argent, c'est parce qu'on en a besoin pour un projet ou pour se développer. En tout cas, il est clair qu'on a des projets sur cette année. L'objectif, je vous l'ai dit, c'est d'être l'acteur référence et de continuer à être cet acteur de référence dans le secteur public. Il va y avoir, en tout cas, des transformations au niveau de la société dans l'année qui arrive. Est-ce que ça sera une levée de fonds ou autre chose ? En tout cas, on reste ouvert au niveau des associés.
Je suppose que vos clients collectivités locales, taux de satisfaction, vous mesurez bien évidemment la satisfaction de vos clients.
Comment ça, Alors, on a un taux qui est très clair. 100% de nos clients qui ont signé avec nous en 2019 ont re-signé en 2020. Et 100% de nos clients 2020 ont re-signé pour 2021. Et je pense qu'on aura le même temps pour 2022.
C'est imparable économiquement. Comment on fait pour en savoir plus, Cyril ?
Alors, il suffit de se rendre sur notre site internet, lespetitsbots.com. Il est aussi possible d'aller voir directement les produits sur lepetitmartin.com ou lapetitemarianne.com.
Lespetitsbots, B-O-T-S,
oui.
.com. On va mettre l'adresse de l'URL donc, sur le podcast de l'émission que vous pouvez bien sûr télécharger. Bon, changez rien, Cyril.
Merci à vous.
Continuez comme ça. Initiative à la fois citoyenne aussi. Donc, ce qui est intéressant, n'allez pas mettre votre siège à San Francisco. Gardez-le bien en France pour gérer les collectivités en France. Ce qui n'est pas le cas de tous les hébergeurs, quand même.
Ça n'arrivera pas. Sachez-le.
Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Fini pour le Zoom de l'info de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
Le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité des territoires. Une émission à réécouter et télécharger sur radioterritoria.fr, l'application mobile Radio Territoria et tous les agrégateurs de podcasts.